Alexandre Dumas, Les grands hommes en robe de chambre. César, Livre 1. Chapitre 1. César naquit le 10 du mois de juillet, 100 ans juste avant Jésus-Christ, et nous dirons plus tard comment, à notre avis, il fut un des précurseurs de la religion chrétienne. Nulle origine moderne, si ambitieuse qu'elle soit, ne saurait se comparer à la sienne. Ni celle des Mérodes, qui prétendent descendre de Mérovée, ni celle des Lévis, qui se disent cousins de la Vierge. Écoutez-le lui-même dans l'éloge funèbre de sa tante Julia, femme de Marius le Vieux. « Mon aïeul maternel, dit-il, descendait d'Ancus Marcius, l'un des premiers rois de Rome, et mon père appartenait à la famille Julia, dont Vénus fut la source. On trouve donc dans ma famille la sainteté des rois, qui sont les maîtres des hommes, et la majesté des dieux, qui sont les maîtres des rois. » Peut-être, nous autres modernes, sceptiques que nous sommes, douterions-nous de cette généalogie, mais 80 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque où César faisait son discours, personne n'en doutait. En effet, César avait en lui, transmises à travers les siècles, beaucoup de qualités de ce quatrième roi de Rome, qui réunissait, disent les historiens, à la valeur de Romulus, son prédécesseur, la sagesse de Numa, son grand-père, qui avait agrandi et reculé jusqu'à la mer le territoire romain, fondé la colonie d'Ostie, jeté sur le Tibre le premier pont permanent, enfermé dans le Pomerium le mont de Mars et le mont Aventin, et organisé, si l'on peut appliquer ce mot à l'Antiquité, cette fameuse commune romaine, plèbe agricole, qui donna à la République ses plus grands hommes. Vénus, de son côté, a été prodigue envers lui. Il a la taille haute et mince, sa peau est blanche et fine, son pied et sa main sont modelés sur le pied et la main de la déesse de la fortune et de la beauté. Il a des yeux noirs et pleins de vie, dit Suétone, des yeux de faucon, dit Dante, et son nez, légèrement recourbé, lui donne avec cet oiseau, et même avec l'aigle, une de ces ressemblances comme en ont avec les animaux véritablement nobles, les hommes véritablement grands. Quant à son élégance, elle est proverbiale. Il s'épile la peau avec soin, il a, même dans sa jeunesse, ses cheveux rares qui lui feront une calvitie précoce. Ses cheveux, il les ramène donc avec le plus grand art sur le devant de sa tête, ce qui fait que Cicéron ne se défie pas de ce jeune homme si bien coiffé et qui se gratte la tête avec un seul doigt pour ne pas déranger l'économie de sa chevelure. Mais Sylla, qui est un autre politique que l'avocat de Tusculum, qui a des yeux bien autrement perçants que l'ami d'Atticus Sylla, en le voyant marcher mollement sur les franges de sa toge, Sylla le montre du doigt et dit « Prenez garde à cette ceinture lâche !» On ne sait pas grand-chose sur la première jeunesse de César. Rome, occupée des sanglantes disputes de Marius et de Sylla, ne fait point attention à cet enfant qui grandit dans l'ombre. César a 16 ans déjà quand le dictateur remarque au forum, au Champ de Mars, sur la Via Appia, un bel adolescent qui marche la tête haute et souriante, qui va rarement en litière on n'est point assez vu, qui, tout au contraire de Scipion Nasica ou Émilien, nous ne nous rappelons plus au juste, lequel demandait à un paysan aux mains calleuses « Mon ami, marches-tu donc sur les mains ?» qui, au contraire de ce Scipion, laisse tomber sa main blanche et efféminée entre les mains les plus rudes. Ce jeune homme connaît par leur nom jusqu'aux esclaves. Il passe, orgueilleux et sans baisser la tête devant les plus puissants, mais courtise et flatte le plébéien en tunique. Il est gai, dans une époque où tout le monde est triste, prodigue dans un temps où tout le monde enfouit son argent, populaire dans un moment où la popularité est un titre de proscription. Avec tout cela, il est le neveu de Marius. Le dictateur, disons-nous, le remarque. Il veut savoir à quoi s'en tenir sur lui, il va lui imposer sa volonté. Si César cède à cette volonté, Sylla s'est trompé. S'il y résiste, il a bien jugé César. Enfant, César avait été fiancé à Cossutia, une des plus riches héritières de Rome, mais née de parents chevaliers, c'est-à-dire de médiocre noblesse. Il ne peut souffrir une pareille alliance. La chevalerie, la noblesse même sont indignes de lui. Il lui faut le plus pur patriarcat. Il répudie Cossutia pour prendre Cornélie. À la bonne heure, celle-là lui convient. Cinna, son père, a été 4 fois consul. César reçoit l'ordre de répudier Cornélie. Il y a, au reste, un antécédent. Pompée a reçu de Sylla un ordre pareil et Pompée a obéi. Mais Pompée est une nature secondaire, un grand homme surfait qui a abusé de ses malheurs pour nous apparaître à travers les siècles avec une taille bien supérieure à sa taille véritable. Aussi Pompée, disons-nous, a obéi. César refuse. D'abord, Sylla le prive du sacerdoce, ou plutôt l'empêche d'y arriver. Dans Rome, on n'arrivait qu'à force d'argent. Nous reviendrons là-dessus. Sylla, comme dirait un chroniqueur moderne, coupe les vivres à César. Comment cela? En vertu de la loi Cornélia. Qu'était-ce que la loi Cornélia? C'était une loi qui confisquait les biens des proscrits et en dépouillait leurs parents. Or, le père de Cornélie, Cinna, et quelques-uns des parents de César, ayant été proscrits dans les guerres civiles comme attachés au parti de Marius, une partie de la fortune de César se trouvait séquestrée par l'application rigoureuse de cette loi. César ne céda point. Sylla donna l'ordre d'arrêter César. En ce temps-là, la délation n'était point encore devenue, comme elle le devint plus tard, du temps de Caligula et de Néron, une vertu politique. César se réfugia chez les paysans de la Sabine, où la popularité de son nom lui ouvrit jusqu'aux plus pauvres chaumières. Là, il tomba malade. Chaque soir, la nuit venue, on le transportait dans une autre maison que celle où il avait passé la nuit précédente. Dans un de ses déménagements, il fut rencontré et reconnu par un lieutenant de Sylla nommé Cornélius. Mais, moyennant 2 talents d'or, c'est-à-dire 10 ou 11 000 francs de notre monnaie actuelle, celui-ci le laissa passer. À Rome, on le crut pris et ce fut presque une révolution. Dans une époque où l'on intercédait guère que pour soi, ce fut à qui intercéderait pour lui. Toute la noblesse, les vestales même, allèrent demander sa grâce. « Vous le voulez ?» dit Sylla en haussant les épaules. « Mais prenez garde, il y a dans cet enfant-là plusieurs Marius. » On courut dans la Sabine pour annoncer cette nouvelle à César. Il était embarqué. Pour quel pays? Tout le monde l'ignorait. L'histoire et ses vétérans lui reprochèrent depuis cet exil. Il était en Bithynie, chez Nicomède III. On ne sait guère aujourd'hui où était la Bithynie, ni qui était Nicomède III. Disons-le, nous avons, on le sait, la prétention d'apprendre à nos lecteurs plus d'histoire que l'histoire. La Bithynie était la partie nord-ouest de l'Anatolie. Au nord, elle touchait au pont Euxins. Au sud, à la Galatie et à la Phrygie. À la Propontide à l'ouest, à la Paphtagonie à l'est. Ses villes principales étaient Pruse, Nicomédie, Héraclée. Avant Alexandre, elle formait un petit royaume de la Perse, gouverné par Zipétès. Alexandre prit, en passant, ce royaume dans ce manteau macédonien, sur le patron duquel il devait tailler Alexandrie, et en fit une de ses provinces. 281 ans avant Jésus-Christ, Nicomède Ier la refit libre. Hannibal s'y réfugia près de Prusias II et s'y empoisonna pour ne pas être livré aux Romains. Tout le monde connaît la tragédie de Corneille sur ce sujet. Nicomède III était le fils de Nicomède II. Il régna de l'an 90 à l'an 75 avant Jésus-Christ. Chassé 2 fois de ses états par Mithridate, il y fut rétabli 2 fois par les Romains et mourut en léguant son royaume à la République. Quant à cette accusation portée contre César à propos du testateur royal, elle est résumée, comme nous l'avons dit, dans les couplets que lui chanteront plus tard ses soldats. César a soumis les Gaules, Nicomède a soumis César, César triomphe pour avoir soumis les Gaules, Nicomède ne triomphe pas pour avoir soumis César. César s'en fâchera. Il offrira de se justifier par serment. Mais les soldats lui riront au nez et lui chanteront le second couplet. « Citoyens, gardez vos femmes, nous amenons le libertin chauve qui achetait les femmes dans la Gaule avec l'argent qu'il avait emprunté à Rome. » César était donc chez Nicomède III lorsqu'il y apprit la mort de Sylla. Sylla venait en effet de mourir après avoir abdiqué. cette abdication imprévue fait l'étonnement de la postérité. Pauvre postérité! Elle ne s'est point amusée à compter les gens qui, à Rome, avaient intérêt à ce qu'il n'arrivât point malheur à Sylla et qui le gardaient, simple particulier, avec un bien autre soin qu'il gardait le dictateur, lequel, étant dictateur, n'avait pas besoin d'être gardé, attendu qu'il avait ses gardes. Il avait mis à peu près 300 hommes à lui dans le Sénat. À Rome seul, le nombre des esclaves des proscrits, esclaves affranchis par lui et qui portaient le nom de Cornéliens, à Rome seul, disons-nous, le nombre des esclaves affranchis par lui montait à plus de 10 000. Il avait fait propriétaires en Italie, en leur donnant des parts dans la guerre Publicus, 120 000 soldats qui avaient combattu sous ses ordres. D'ailleurs, avait-il bien véritablement abdiqué, celui qui, dans sa villa de Cume, la veille de sa mort, ayant appris que le questeur Granius, comptant sur l'événement attendu, différait de payer une somme qu'il devait au trésor, faisait prendre le questeur Granius et le faisait étrangler sous ses yeux et près de son lit. Le lendemain donc de cette exécution, il était mort, d'une vilaine mort, ma foi, pour l'homme qui se faisait appeler fils de Vénus et de la Fortune, et qui avait la prétention, justifiée d'ailleurs, d'avoir été au mieux avec toutes les belles femmes de Rome. Pourri avant de mourir, comme certains corps dont parle le fossoyeur d'Hamlet, « Rotten before he dies ». Il avait rendu le dernier soupir, rongé par les poux jaillissants des ulcères dont son corps était couvert, et qui, pareils à des colonies d'émigrants, ne sortaient d'une plaie que pour entrer dans une autre. Cela n'avait pas empêché que ses funérailles ne fussent peut-être son plus beau triomphe. Porté de Naples à Rome par la Via Appia, son corps avait été escorté par des vétérans. Devant ce cadavre immonde, marchaient 24 licteurs avec des faisceaux. Derrière le char, on portait 2 000 couronnes d'or envoyées par les villes, par les légions et même par de simples particuliers. Tout autour se tenaient les prêtres pour protéger le cercueil. Sylla, le reconstructeur de l'aristocratie romaine, n'était pas populaire, il faut l'avouer. Mais, outre les prêtres, il y avait aussi le Sénat, les chevaliers et l'armée. On craignait une émeute. Toutefois, ceux qui n'avaient rien tenté contre le vivant laissèrent passer tranquillement le mort. Et le mort passa au bruit des acclamations solennelles poussées en mesure par le Sénat, au bruit des fanfares éclatantes jetées à l'écho par les trompettes. Entré à Rome, l'infect cadavre fut conduit et loué à la tribune aux harangues. Enfin, on l'enterra au Champ de Mars, où personne n'avait été enterré depuis les rois. Puis ces femmes dont il se vantait d'avoir été l'amant, ces descendantes de Lucrèce et de Cornélie, apportèrent, outre ceux qui étaient contenus dans 210 corbeilles, une si grande quantité d'aromates qu'il en resta, Sylla brûlé, assez pour faire une statue de Sylla de grandeur naturelle et une statue de licteur portant les faisceaux devant lui. Sylla, mort à Cume, brûlé à la tribune aux harangues et enterré au Champ de Mars, César vint donc à Rome, comme nous l'avons dit. Maintenant, dans quel état était Rome ? C'est ce que nous allons essayer de raconter.